Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Au-delà d'être mon compagnon dans la vie de tous les jours, Léonard est aussi un rêveur, passionné et touche-à-tout, qui a une soif infinie d'apprendre et de transmettre. Pour ce 11e épisode, j'ai souhaité vous partager notre entrevue portée par les thèmes de l'admiration, de l'essentiel et de l'onirisme. Si ce format d'interview vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne écoute.
Hey, coucou Léonard.
Bonjour.
Alors, comme tu sais, j'aimerais tester un concept nouveau d'interview. Où j'interview des gens que j'admire, qui m'intéressent et qui, je pense, ont un point de vue intéressant à apporter à moi et à la société en général. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, je m'appelle Léonard Suzanne, j'ai 22 ans, 23, pardon. je suis principalement cuisinier et j'aspire à devenir... Même si j'aime pas ce terme, entrepreneur.
Pourquoi t'aimes pas ce terme ?
J'aime pas tout ce qui a collé, les mots business, ouais. Faire de l'argent, plan sur le long terme, investissement, emprunt, j'aime pas ça. Non, voilà, moi mon objectif c'est de créer un restaurant, mais avant ça de créer un jardin pour... fabriquer, construire un outil de production avant de construire un outil de transformation.
Okay.
Et ainsi, essayer d'éviter au maximum tout ce que j'ai cité au préalable, les investissements lourds, les emprunts, les business plans, mais monter quelque chose de très organique dans la forme, en fait.
Okay.
Quelque chose qui va évoluer comme un être vivant, vraiment.
Ok. Et du coup, comment tu te définirais en quelques mots ?
J'essaie de continuer toujours de rêver un petit peu dans mes ambitions et de faire rager ceux qui ont arrêté de rêver.
C'est un but pour toi de faire rager ceux qui
c'est
ont
pas un but
rêver.
Mais quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui revient le plus. C'est vraiment oh mais tu verras, tu penseras pas comme ça dans 10 ans,
tu vas être désillusionné.
Et on me disait ça déjà il y a 5-6 ans, donc c'est cool, je pense que je suis sur la bonne voie puisque je pense encore comme il y a 5-6 ans, enfin en tout cas je rêve encore comme il y a 5-6 ans.
Et t'as l'impression d'être un peu seul à penser comme tu penses ?
Non, non, non. Avec le temps, on arrive à son... Enfin, on arrive. Il arrive qu'on s'entoure et que ce qui nous entoure reste sans vraiment qu'on le calcule. Et ça, c'est très satisfaisant. Et ça montre qu'on a, on a raison de s'y tenir, quoi. De conserver cette part de rêve, parce que quelque part quand on passe son temps à y croire et à y penser, ben il y a une part de notre force qui va là-dedans et qui le concrétise sans vraiment qu'on fasse.
Oui, tu y attends.
Voilà, c'est ça.
Et tu parles de ça tant personnellement que professionnellement.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je vois des signes de concrétisation de ces rêves.
Déjà.
De plus en plus là, avec les années qui avancent, sans que j'ai jamais fait de campagne de recrutement ou que j'ai fait de discours à rallonge auprès de qui que ce soit, c'est juste en parlant de mon projet auprès de certaines personnes.
Oui, sans convaincre.
Et je retrouve voilà, des échos depuis quelques mois, quelques années, et ça me conforte dans l'idée qu'il faut encore en parler, qu'il faut encore rêver, et ça viendra, c'est sûr. Je sais pas, je sais où je vais, mais je sais pas comment. Et c'est cool.
Donc, tu dirais quand même que tu as un certain objectif ?
Oui.
Qui est, par exemple, professionnellement parlant ?
Voilà, créer un jardin, puis créer un restaurant, en vivre, faire de la très très belle nourriture, pour des bourses plus ou moins, quand même J'aimerais que ce soit accessible. Et voilà, l'autofinancement, le fait de faire grandir ça de manière très douce, ça va permettre de limiter les prix et les prix demandés.
Donc de dépendre que ta production définisse ce que tu vas servir dans ton restaurant. Donc,
Oui, c'est ça. Du coup, t'as jamais de. Tu t'es tout à fait capable de maintenir un coût matière très bas et d'organiser ton travail pour que ton coût de personnel, même si ce sera pas vraiment le terme, vu que je voudrais que tout le monde soit. En fait, c'est un peu de la propagande, cette interview. Pour que tout le monde soit. Je voudrais pas de salariat, en fait. Je voudrais que tout le monde soit ou associé ou en.
hiérarchiquement au même
Ouais,
niveau.
voilà, c'est ça. Une hiérarchie horizontale, énormément de responsabilités pour tout le monde. Tout le monde a. C'est une entreprise socialiste que je veux faire, quoi.
Je vois que tu as un peu du mal avec le leadership en
Ouais,
tant que tel, parce que tu te justifies en...
disons que on peut tout à fait écouter quelqu'un en ayant aussi son mot à dire et que cette personne nous écoute, et je vois pas en quoi ça se passerait moins bien.
Ok. Est-ce que du... Allez, là tu parles d'un projet à long terme, disons une sorte de toile de fond
Oui, voilà,
complètement
c'est ça.
repeinte.
C'est vraiment un marathon.
Et tu as un projet professionnel? Un projet professionnel actuel
Là,
qui t'aide à aller
actuellement, j'ai la
vers ça?
chance de travailler dans un très bon ramen à Bruxelles que je fréquente
D'accord.
depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai enfin sauté le pas d'y travailler. C'est très intéressant. Voilà, pour moi, le ramen, c'est un peu le. C'est un peu c'est à la junk food ce que le sushi est à la cuisine raffinée et gastronomique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple, du bouillon, des nouilles et un topping, mais qui demande d'infini calibrage et
Ok,
un
ciseaux.
soin tout particulier pour avoir quelque chose de bon. Et le sushi, c'est pareil. C'est très simple en apparence, c'est du riz, du poisson et du sel. Et il faut voilà, des années, des décennies d'expérience pour faire un sushi digne de ce nom.
Donc là, je vois que tu parles de... Enfin, j'entends que tu parles de gastronomie ou de street food japonaise. Essentiellement, il y a quelque chose avec le Japon. Il y a un lien particulier avec le Japon.
Oui, il y a une sorte de bah, d'histoire bateau d'adolescents qui découvrent les mangas et qui découvrent que les codes, la culture. Et par extension, la gastronomie japonaise, ça déchire quand même pas mal. Et donc, a décidé de s'y intéresser et qui a eu la chance d'y aller et qui aura peut-être la chance d'y retourner. Et entre-temps, la cuisine et donc le métier de bouche sont devenus son métier. Donc, voilà.
Il y a quelque chose dans la culture japonaise qui te... Allez, c'est pas anodin, hein, mais mes questions vont peu à peu tourner vers le côté essentialiste, etc. Tu vas voir, mais il y a quelque chose dans la culture japonaise qui te... Au-delà de la gastronomie, qui t'attire.
Ah oui.
Qu'est-ce qui...
Les japonaises, dans la culture japonaise, enfin je l'ai lu nulle part, mais c'est ce que je ressens. Déjà d'un point de vue de cuisinier, il y a deux choses qui me frappent. C'est le kodawari, qui veut dire perfection, répétition, obsession, et bien d'autres choses et qui définissent un peu ce que font tous les cuisiniers japonais. Comme Jiro Ono qui fait des sushis depuis 80 ans et qui est toujours pas au. Et qui pour lui, selon lui, n'est pas au sommet de son art alors que c'est clairement le meilleur. Il a 97 ans cette année. Et tant d'autres cuisiniers spécialisés dans leur domaine qui font des choses fabuleuses. Et il y a le côté de la culture et du. Prendre une chose chez le voisin et la raffiner à l'extrême. Bah, le sushi, c'est le parfait exemple. À l'origine, le sushi, c'est une façon de conserver le poisson en Chine dans le riz et le sel. Le riz cru et le sel. Et après des centaines d'années, c'est devenu l'edamame sushi, donc une tranche de poisson maturée plusieurs jours, salée d'une certaine manière, formée sur une boule de riz qui a été cuite d'une certaine manière, assaisonnée d'une certaine manière avec du sel et du vinaigre. Et voilà, ce qui était une technique de conservation il y a 4 ou 6 siècles, ben maintenant c'est un des mails est plus raffiné et quand on s'y intéresse, on se rend compte que ça raconte beaucoup beaucoup plus que ce que certaines chaînes nous laissent entendre.
Donc c'est à ce côté ouverture et tradition, j'imagine, qui te...
Le côté
Si je devais résumer.
technicien, c'est une raffinerie du savoir-vivre, le Japon. Pardon.
Et est-ce que dans ta vie de tous les jours, enfin plutôt à quoi ressemble une journée type chez toi? Est-ce qu'il y a des choses comme ça de cette culture qui sont incluses dans ton quotidien?
De la culture plus généralement asiatique, il y a le rituel du thé que je consomme pluri-quotidiennement depuis des années. Depuis au moins 5 ans minimum maintenant. Le thé en vrac, évidemment. Tiens, je fais une petite pub. En ce moment, je découvre la boutique L'Heure Bleue à Bruxelles, qui est une excellente boutique de thé, essentiellement chinois. Et vraiment, vraiment, je conseille. C'est un amoureux de ses crus et il connaît énormément de choses, c'est vraiment passionnant. Et donc, moi j'utilise ce qu'on appelle un gaiwan, qui est là une technique chinoise d'infusion, qui est un petit récipient avec lequel je pourrais faire de l'ASMR là tout de suite, qui est composé de trois éléments, en céramique le plus souvent, en terre cuite. Ici j'en ai un en verre parce que c'est plus facile à d'entretien. Une petite coupe qui sert de support qui s'appelle la terre, enfin qui représente la terre, ce qui va recevoir le thé et qui va servir de réceptacle d'infusion le corps ou l'homme, et on couvre ceci avec le ciel. Et donc ça symbolise le thé, qui est symbole de sagesse, qui rentre dans l'homme. Et j'adore ce symbole, j'adore la façon de s'en servir, c'est toute une gestuelle. Et surtout, bah, ça permet vraiment de magnifier, ou plutôt ouais, de respecter tout le travail qui a été fait par les producteurs, par les artisans qui font le thé. Et c'est la meilleure manière d'infuser le thé, en tout cas les thés chinois, parce que les thés japonais, pour le coup, c'est pas possible de faire ça au gaiwan, il faut vraiment une théière japonaise. Donc on voit encore là la capacité des japonais à faire ce dont ils ont besoin et pas plus. Et donc ça va tout à fait avec l'essentialisme dont tu parles, de dire
Exactement.
on va pas juste copier, on va juste s'approprier, adapter, raffiner.
Parce que justement, j'allais te demander en suivant, qu'est-ce que ça t'évoquait, le minimalisme ou l'essentialisme, parce qu'il y a certaines personnes qui se définissent comme telles, voire c'est un vrai mouvement pour certaines personnes, puis il y en a, ça fait juste partie de leur vie sans pour autant qu'il y ait une définition derrière. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque?
Quand je pense aux objets que j'ai cités, ça m'évoque ne jamais. J'ai jamais à me dire, oh, cet objet-là, je m'en fous, ou je peux le casser, je m'en fiche, ou. Enfin, cette idée de ne.
Tout a un sens pour
Tout
moi.
a un sens, tout a une importance, tout apporte quelque chose, et tout te sert, ou te.
Te remplit
Ouais.
ou... Je sais pas si c'est devenu mieux.
Après, j'ai pas un intérieur parfaitement minimaliste ou essentialiste, mais il y a beaucoup de choses où je dis, quand je le vois ou quand je m'en sers, je me dis, ah, c'est quand même agréable et ça me comble dans un sens.
Mais t'es au courant que pour certains, ton intérieur peut paraître comme très épuré,
Oui, c'est vrai.
voire... Allez.
Vide.
Pas vide, mais... Du coup, tu te définirais comme tel, en tant que un minimaliste ou un essentialiste?
Peut-être pas forcément
Dans ton...
dans mon intérieur et on va dire, dans mon cabinet de curiosité, même si j'en ai pas vraiment, mais je veux dire dans mon inventaire, voilà, pour donner un petit terme un peu vidéoludique, mais dans mon rapport aux nouvelles choses, aux nouveaux objets, je sais que j'ai cette démarche intellectuelle maintenant. Quoi que je reçoive, quoi que j'achète, y compris quand c'est impulsif, je sais que j'ai ce regard, on va dire, critique de possession, et donc que je saurais tout à fait très rapidement me dire c'est un achat à coup de tête, je peux m'en débarrasser, le revendre, le donner, le j'ai fait un achat remarquable et j'en suis fier
Oui.
et ça me comble encore plus.
Donc tu tends vers ça, mais tu t'estimes pas être
Non,
dans un...
y a pas de. C'est en aucun cas un
Oui.
conditionnement inébranlable.
Ok.
C'est quelque chose de très malléable et de très souple.
Tu ne t'interdis rien.
Voilà, je pense que la plupart des minimalistes font le même en fait. Ils sont jamais en train de se juger, en train de se dire ah, mince, j'ai plus de 37 objets à la maison, qu'est-ce que je veux devenir?
Mais je, par exemple, je pense à la capsule wardrobe qui est pour rappeler un principe où tu vas te limiter à un certain nombre d'articles, notamment pour, en l'occurrence, le dressing, que ce soit à une saison donnée ou dans la globalité de ton dressing, tu as d'important, enfin, c'est important pour toi que tu aies 33 pièces, par exemple. Donc pour certains, je pense que le chiffre est intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est important ou si c'est juste un défi, un challenge personnel, mais je pense que effectivement ce chiffre rassure quoi, de se dire c'est limité dans le temps. Donc je pense que, enfin du moins c'est limité dans l'espace que ça prend et dans ma tête. Mais pour toi, c'est pas quelque chose qui conditionne quoi,
Non, pas
qui
vraiment.
cloisonne.
En tout cas, peut-être que si je le quantifiais, je me dirais, ah ben j'arrive à peu près à ce chiffre et ça me convient et j'essaierai ou
De
de le
tendre.
conserver ou de le limiter encore davantage. Mais en l'occurrence, c'est plus du ressenti. Je me dis,
Oui.
ah ça, je le porte et je suis plutôt sur la bonne voie à ce niveau-là.
Tu testes quoi.
Même si récemment, j'ai un peu, je me suis un peu dit, ah oh, tiens, ça, j'adore ça, je le prends, je le prends, je le prends. Et voilà, on verra bien. Mais voilà, l'avantage de cette. Enfin, l'avantage. Acheter ma méthode. Ce qui est agréable avec ce mode de pensée, c'est que ben, tu peux vraiment. Je pense qu'on élimine la fierté liée à l'achat. Enfin, la fierté dans le mauvais sens du terme. On se dit pas, ah non, je l'ai acheté, je peux quand même pas le revendre ou le donner, je vais avoir l'air con.
Mais dans le
C'est
sens
juste un objet et on y applique la juste dose d'affectif, d'émotionnel. Je pense qu'on prend du recul sur nos possessions. On chérit plus ce qui doit être chéri et on se détache plus de ce qui nous apporte pas grand-chose en fait, à part de l'ego ou de la détresse pour certains.
oui, on se détache de l'achat compulsif, quoi.
Ouais.
Comme un élément de guérison, quoi. Enfin, quelque chose qui t'aiderait, quoi, dans un mal-être, tu veux dire?
Pas vraiment l'achat compulsif, mais plus le pansement.
Ah
Tu
oui, le pansement,
gardes un espèce de gros tas de bandages en permanence chez toi,
oui.
qui en fait te sert à rien parce que
Que je définis
t'es pas
souvent comme
blessé.
une barrière, moi.
Oui.
Une barrière au monde extérieur et aux décisions qui doivent être prises.
Oui.
Est-ce que tu as un objet fétiche que tu ne pourrais pas quitter?
J'en ai quelques-uns. Mais là, quand je regarde tout de suite autour de moi, il y a un Bouddha en bronze que m'a offert mon cousin que je chéris beaucoup, qui est un peu un symbole de sagesse pour moi, cet homme.
Bouddha ou ton cousin?
Mon cousin.
Ok.
Je suis pas assez dans les huit chemins pour dire que je chéris Bouddha, mais.
Mais ça te parle en tout cas.
Ouais, je pense qu'il y a ça. Mes quelques instruments,
C'est quoi tes quelques instruments?
une guitare acoustique, des petits synthétiseurs rigolos et portatifs,
T'es un peu.
un harmonica que j'ai pas encore vraiment étrenné, mais qui sait.
T'es un peu un touche-à-tout en fait.
Oui. Je suis touche à tout, mais j'ai la fâcheuse
Mais
habitude
reste à
de.
rien.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, je sais pas, je me
C'est
permets,
ça.
mais.
Il n'y a que quelques. Je me permets depuis quelques années de justement plus tester des choses qui coûtent plus ou moins d'argent. Y a encore rien de malsain là-dedans. Et voilà, du coup, je m'autorise aussi à me dire bon, ça m'a pas, j'ai pas le coup de cœur pour cette chose, je peux la ranger ou la ou faire tout ce qu'un essentialiste doit faire, c'est-à-dire donner,
Doit.
recycler, blablabla.
Doit faire.
Peu ou doit faire, peu ou se dit qu'il doit faire.
Tu dis que tu dois faire quelque chose?
Non, mais c'est comme c'est rentré dans notre ADN de se dire bah je peux pas, je ne peux pas acheter ceci parce que c'est emballé, je ne peux pas je ne peux pas c'est comme aller à la boulangerie avec mes sacs, je ne peux plus aller sans.
Oui, c'est devenu quelque chose de presque politique en fait.
Complètement. Complètement. On a la chance d'être dans une génération qui, j'ai envie de dire, qui politise sainement, c'est-à-dire qui rend la politique son côté humain en fait. Les affaires de la cité, hein, et là c'est plus les affaires de la cité, c'est les affaires de la planète. C'est-à-dire, on doit tous participer aux affaires de la cité. Et par définition, consommer moins, consommer mieux, c'est participer aux affaires de la planète, de la cité, etc. Donc, pour moi, ça, c'est très très sain comme façon de se politiser.
De conscientiser.
Ouais, de conscientiser son environnement, son impact, notre impact sur celui-ci. Et encore qu'il est extrêmement biaisé et flou. Parce que quand on se dit, c'est cool, on sort seulement un sac de déchets papier par mois. Bah, c'est juste, on va dire, 4 fois moins que la moyenne, et encore, peut-être pas, mais c'est encore très flou. C'est peut-être pas du tout suffisant comme. Et encore, voilà, certains qui disent, regardez mon pot de déchets depuis 1 an, en famille à 4, ça me fait bien rire ça.
Tu parles de Jérémy Pichon notamment, la
Ou
famille zéro
d'autres
déchet.
qui exposent leur petite boîte de déchets qu'ils ont depuis 1 an, mais.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
Je sais pas.
Enfin, qu'est-ce que ça fait en...
Je sais pas, c'est un mélange de.
Ça
Enfin,
te
pas
fait
de
du bien.
mépris, mais de bon.
Pourquoi?
Je sais pas, c'est peut-être le côté bon élève de cette démarche qui me dérange. Pourtant, je pense que je passe pour un bon élève pour d'autres, mais.
Bah, en fait, bah, je reprends par exemple Jérémy Pichon en l'occurrence parce que c'est lui qui donc a écrit La famille zéro déchet, qui est un livre assez connu, qui est un peu un des instigateurs en tout cas en France, francophonie, du mouvement zéro déchet avec Bea Johnson, qui elle aussi a cette petite jarre en verre avec ses déchets de il y a 1 an ou qui sait regrouper. Donc c'est un peu des instigateurs, on va dire, du mouvement, quand il a commencé en tout cas à être mis sur le devant de la scène. Et ça t'embête qu'il y ait un modèle, enfin du moins
Non,
qu'ils montrent le contenu de leur poubelle qui tient dans un...
mais je crois que je suis sceptique en fait de nature. C'est pas que j'ai besoin de. Si, j'ai besoin de preuves en fait, je trouve.
Et comme tu connais pas leur quotidien, c'est ça qui
Ouais,
te...
certainement.
Ok.
Prendre pour acquis ce qu'on me présente comme la vérité, d'office, je trouve ça bizarre.
Tu préfères faire ton chemin, faire ton petit
Ouais,
chemin.
certainement, ouais.
Ok. Est-ce que... du coup, je crois que ces personnes qu'on vient de citer ne feront pas partie de la question, de la réponse à la question qui suit, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes que tu admires ou qui t'inspirent au quotidien, qui t'aident à aller vers ces objectifs pro, perso
Ouais, les gens que j'admire, c'est surtout les gens que j'ai cité au début quand je parlais des gens auprès de qui j'ai des échos de ce que j'ai dit de ce que j'ai dit à ces mêmes personnes plusieurs mois auparavant et qui me disent ah, en fait je repense à ton projet de jardin et tout. Yes, trop cool. Ou ah tu veux ouvrir un ramen en Bretagne? Moi aussi on se fait ça. Ah trop bien. Ou même ma compagne actuelle qui je sais pas si j'aurais été aussi habité par ce mode de vie si je n'avais pas été avec elle. Parce que je me revois encore il y a 3 ans à me dire alors je vais aller acheter des trucs en vrac et après. Et alors qu'aujourd'hui, bah, c'est normal. Donc les gens que j'admire, j'ai de la chance, ils sont tout autour de moi. Puis aussi les gens que j'admire de façon un peu plus fanatique. Bon, il y a quelques musiciens, il y a quelques cuisiniers, quelques artistes, quelques penseurs, quelques conférenciers. Non, c'est bien parce que c'est des choses très, très palpables et accessibles.
Oui, il n'y a pas un. Ils sont chacun dans leur domaine inspirant, selon
Oui,
toi.
voilà.
Voilà. Ok. Et par rapport à eux ou par rapport à toi, t'en détachant, tu as un rêve ou un objectif? Quelque chose, à part ce projet de jardin, il y a quelque chose qui allait. Que tu avoues ou pas vraiment, sur lequel tu sais mettre des mots ou pas vraiment, que tu aimerais bien accomplir? Un rêve, quoi, même un objectif, un but.
À côté de créer ce jardin, ce restaurant, ou avant, ce serait bah, déjà ouvrir un ramen en Bretagne, aller au Japon en stop, parce que j'ai beaucoup beaucoup fait de stop, ce qui m'a un peu endurci en me disant bah 7 heures de voyage pour un truc qui en prend 3, bon, c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est ça le principal.
Ouais. C'est de l'ordre de la découverte et de la création, quoi.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui te donne la joie ou que ce pourquoi tu es content de te lever?
La musique, la nourriture, et me rendre compte que, ouais, me rendre compte que, bah, les convergences de.
Opinion d'idées.
Ouais, d'opinion, de goût, d'envie. Ça, j'adore.
C'est jouissif, quoi.
C'est comme si deux petits rayons de lumière se rencontraient à chaque fois que toi t'en es un, l'autre ou les autres en sont aussi. Et paf, et ça donne un rayon ultra puissant bah, de bonheur, quoi. C'est très agréable, ça.
C'est
C'est vraiment ça qui me plaît, moi.
fort, c'est oui, c'est gratifiant
Ouais,
aussi.
c'est très gratifiant.
Si tu pouvais passer un message aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait?
Rêver, putain.
Avec
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est fatigant
le
quand même.
putain, très
De,
important.
depuis que j'ai, depuis que j'ai, depuis que j'ai 15 ans, j'entends tout le temps. Allez, j'entends. J'ai pas cessé d'entendre des gens plus ou moins âgés, hein, qui peuvent avoir entre 20 et 35 ans, qui disent, oh, tu verras, j'ai abandonné ou j'ai plus de rêve. Bon, comme j'ai dit, hein, pour l'instant, je tiens la barre. J'ai l'impression de continuer d'avoir ce grand sourire un peu bêta quand les gens me le disent, mais et battez-vous, quoi.
Ça te fait de la peine?
Ça me fait pas de peine parce que je me dis que ces gens sont pas irrécupérables, ils sont pas non plus tombés dans la. C'est pas la déprime, mais il y a une sorte de
Désillusion,
désillusion, ouais,
qui est obligatoire avec
Ouais,
le.
ça, j'y crois pas du tout, ça. Et justement, s'il y a un truc que nous apprennent bien nos amis japonais dans la culture manga, c'est que bah on peut encore il faut rêver, quoi. Bon, s'ils continuent de le faire, c'est que les gens ont un peu de mal à rêver et qu'il faut vraiment les aider. Je pense qu'on peut suivre un peu enfin, j'aime bien ce genre de noblesse un peu ingénue, très ingénue même. Que je trouve bonne et que je trouve gratifiante à retranscrire dans le réel et dans le quotidien. Même si ça paraît complètement désuet et ridicule aux yeux de beaucoup, bah moi ça l'est pas et ça. Et je reste. Je suis souvent même récompensé pour me comporter comme mes héros ou comme mes idoles, qu'ils soient réels ou non. Mythiques ou juste imaginaires. Donc. Je pense que c'est important de se référer à des idoles pour avancer, en fait. Que ce soit des modèles paternels, maternels, ou des légendes, etc. Et plonger vraiment au cœur des choses, des choses qui animent, et des auteurs, et leurs personnages.
Donc pour toi, quand on rêve plus, c'est pas, c'est la fin de la
Oui, et puis il y
vie
a plein
quelque
de philosophes qui disent ça, hein. De toute façon,
part.
le rêve, c'est un mouvement également, et si tu arrêtes de rêver, si tu arrêtes de bouger à l'intérieur, si ton inconscient arrête de bouger, hein, quand tu dors, qu'est-ce que c'est quand tu dors pas? Et même, je rêve plus éveillé qu'endormi, donc c'est d'autant plus vrai.
Ok, donc rêver.
Ah oui, à fond.
Rêver, putain.
Rêver.
Très bon
Putain.
point. Merci, Léonard.
Merci, Roxane.
Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, Delpy, mais également sur mon site roxanedelpy.com et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.